Aujourd'hui, on plonge dans une pile de documents qui sont vraiment fascinants.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire.
En fait, on a sous les yeux les notes, les articles et les recherches hyper approfondies du docteur David Adosilva.
Absolument.
Et ça concerne un texte antique très particulier, plus précisément les chapitres 9 et 10 de l'Épître aux Hébreux.
C'est vraiment le cœur du texte, là.
C'est ça. Et la mission de notre exploration d'aujourd'hui, c'est de comprendre comment ce document a complètement redéfini la notion d'accès au divin.
Et c'est pas rien comme sujet.
Ah non, pas du tout. Comment on est passé d'un système physique super répétitif à une réalité spirituelle définitive.
Ouais.
Et surtout, comment cette logique, qui a genre 2 millénaires, elle remet en question nos propres hiérarchies modernes.
C'est la partie la plus surprenante, je trouve.
Carrément. Alors, pour bien capter l'ampleur du truc, faut d'abord s'imaginer un vieil ordinateur.
D'accord.
Un ordinateur qui tourne sur un système d'exploitation ultra instable, genre une version bêta.
Ouais, c'est une image de départ hyper intéressante. Le système, qui demande juste trop de maintenance, en fait.
C'est tout à fait ça. Faut s'imaginer, l'écran fiche constamment, les applications plantent.
C'est épuisant.
Et le seul moyen de continuer à bosser, c'est de redémarrer la machine encore et encore, tous les jours.
Toutes les semaines.
Voilà. Et puis un beau jour, bam, une mise à jour majeure arrive.
Enfin.
Et elle se contente pas de corriger quelques petits bugs en surface, hein. Elle réécrit complètement le code source.
On n'a plus jamais besoin de redémarrer, du coup.
Exactement. Bon, décortiquons tout ça. Le texte, en fait, il décrit ce vieux système d'exploitation, donc l'ancienne loi religieuse, comme une simple ombre.
Et ce terme ombre, il est crucial ici,
Ouais,
hein.
oui.
Mais il demande une clarification immédiate, parce que quand on mentionne ce mot dans un contexte antique,
On pense direct à la philosophie grecque, non?
mais oui, c'est ça, l'esprit file vers l'allégorie de la caverne de Platon.
Ah oui, avec les ombres projetées sur le mur.
Voilà. Où les ombres représentent notre monde physique, imparfait, alors que la vraie réalité, les formes idéales, elles sont à l'extérieur, dans le monde des idées.
La réalité intellectuelle supérieure contre la petite réalité matérielle, quoi.
C'est la lecture classique. Sauf que, et c'est là que c'est fort, l'auteur des Hébreux n'utilise pas du tout ce cadre métaphysique.
Ah bon?
Non, il s'inscrit dans un cadre strictement temporel.
Historique.
D'accord, c'est une sacrée nuance, fondamentale. Pour lui, la loi, c'est pas l'ombre d'une idée intemporelle qui flotte dans l'éther.
Ouais.
C'est l'ombre d'événements super concrets. Des actions réelles qui étaient encore dans le futur pour Moïse, mais qui se sont réalisées dans l'histoire.
Donc, l'ombre pointait vers l'avant sur la ligne du temps, pas vers le haut, vers un monde abstrait.
C'est exactement ça. Elle annonçait une substance temporelle.
Ok, donc si la substance est arrivée, ça veut dire que l'ancienne ombre, le vieux système, il devait avoir des failles monumentales pour qu'on doive le remplacer.
Des failles béantes, ouais.
Ce qui nous amène à ce fameux plantage répétitif dont on parlait. Le cas d'école dans nos sources, c'est le rite annuel du Yom Kippour.
Le grand jour des expiations.
Voilà. Théoriquement, c'était le sommet du calendrier. Le livre du Lévitique affirme hyper clairement qu'en ce jour, tout le peuple sera purifié de ses péchés.
Ça, c'était la promesse institutionnelle, en effet.
C'était censé régler le problème, non?
Oui, mais l'auteur avance un argument d'une logique implacable, presque paradoxale sur la culpabilité.
Ah ouais, vas-y.
Son raisonnement, c'est si un remède médical fonctionne vraiment, on guérit et on arrête de le prendre.
Mais oui, c'est logique.
Donc, si ces rituels purifiaient réellement la conscience, les gens n'auraient plus cette angoisse persistante.
Les sacrifices auraient naturellement cessé du coup.
Exactement. Le fait même de devoir répéter l'opération chaque année, ça prouve que le remède traite que les symptômes, pas la maladie.
Là, je dois me faire l'avocate du diable.
Vas-y, je t'écoute.
Le texte sacré de l'époque, genre Lévitique 17, verset 11, il dit hyper explicitement que la vie de la chair est dans le sang, et que c'est le sang sur l'autel qui fait l'expiation.
C'est vrai.
Donc, en affirmant noir sur blanc qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés, l'auteur contredit frontalement son propre texte sacré, non?
C'est une super objection, et ça révèle complètement comment cet auteur lit ses écritures.
C'est-à-dire?
Il ne lit pas le Lévitique comme un code de loi figé. Il écrit plus de 1000 ans après et il s'appuie sur la tradition prophétique.
Ah, les prophètes.
Ouais. Des siècles avant lui, des prophètes comme Ésaïe avaient déjà détruit cette mécanique. Dieu dit littéralement dans Ésaïe: Je suis écœuré de vos holocaustes, le sang des animaux m'intéresse pas.
Ouais, parce que les gens faisaient le rituel le matin et l'après-midi, ils exploitaient leurs voisins, c'est ça.
Tout à fait. C'était une réaction contre une religion devenue purement mécanique, sans aucune justice sociale derrière.
Ok.
La critique originelle voulait sauvegarder l'esprit de la loi. Mais l'auteur des Hébreux, lui, va beaucoup plus loin.
Ah oui.
Il utilise ça pour déclarer carrément l'obsolescence de tout le système. Et pour le prouver, il utilise une technique redoutable avec le livre des nombres. C'est ça.
Mais juste avant de voir comment il l'utilise, c'était quoi concrètement cette offrande ?
C'est un rituel assez troublant, en fait. C'était conçu pour démasquer une femme que son mari soupçonnait d'adultère. Sans aucune preuve, d'ailleurs. Hein.
Super ambiance.
Grave. On apportait de la farine d'orge, sans huile, parce que c'était une offrande dite de souvenir. Et le prêtre faisait boire à la femme une eau amère avec de la poussière du sol.
Pendant qu'il prononçait des malédictions, c'est ça ?
Exactement.
Mais c'est un procès par l'ordre d'Ali, en fait. Une épreuve psychologique terrifiante pour forcer quelqu'un à craquer.
C'est précisément le mécanisme, ouais. Et le texte biblique appelle explicitement ça une offrande qui rappelle le péché.
D'accord.
Ah, et c'est là le coup de génie. L'auteur prend cette fonction ultra spécifique, accusatrice, et il l'applique à tout le système de Yom Kippour.
Attends. C'est hyper brutal comme rhétorique.
Ah oui, c'est violent.
Il prend le jour le plus sacré de l'année, le jour où tout le monde est censé repartir à zéro, et il le compare au rituel le plus angoissant qui soit.
Il transforme la fête du pardon en séance de torture psychologique.
C'est une généralisation idéologique de dingue.
Totalement assumée. Et faut noter qu'il n'était pas le seul à faire ça. Le philosophe juif Philon d'Alexandrie disait la même chose.
Ah ouais ?
Ouais. Il disait que le sacrifice d'une personne corrompue ne fait que rappeler à Dieu son indignité. Le but, c'est de montrer que tant que le système physique est là, la conscience reste prisonnière de la culpabilité.
Le diagnostic est sans appel, quoi. Le système est inefficace et accusateur.
Complètement.
Mais bon, s'il détruit le vieux système comme ça, il doit bien proposer une alternative en béton. Il peut pas juste dire « vous avez tous tort sans preuve ».
Non, bien sûr.
Et c'est là que l'analyse nous amène à cette anomalie de traduction absolument dingue autour du psaume 40.
Ah, le psaume 40 ! C'est la pierre angulaire de son argument.
Vas-y, explique-nous.
Il cite ce psaume pour prouver que Dieu lui-même avait programmé la fin des sacrifices. Mais le truc passionnant, c'est qu'il cite pas le texte hébreu original, le texte massorétique.
Il s'appuie sur la Septante, c'est ça, cher.
Exactement, la version grecque.
Le texte massorétique, c'est la version traditionnelle des scribes juifs, et la Septante, c'est la traduction en grec ancien. Et entre les deux, il y a une différence qui change littéralement tout.
C'est fou.
Dans le texte hébreu, le psalmiste dit à Dieu « Tu m'as ourié cosiné, tu m'as creusé des oreilles ». L'idée, c'est d'écouter les commandements plutôt que de brûler des animaux.
C'est poétique, même si l'image de se faire creuser des oreilles est un peu bizarre.
Ouais, un peu gore. Mais la Septante dit tout autre chose. Elle dit « Tu m'as préparé un corps ».
La différence est colossale. Pourquoi les traducteurs grecs ont fait ça ? Bah, creuser des oreilles, ça sonnait super mal en grec.
C'était pas naturel.
Voilà. Ils ont utilisé une synecdoque. L'oreille, l'organe de l'écoute, a été élargie à tout le corps. Obéir à Dieu, c'est engager tout son être physique.
L'intention, c'était juste de traduire l'obéissance totale au final.
C'est ça. Tu m'as préparé un corps pour faire ta volonté.
C'est ouf. C'est comme regarder un film où le traducteur modifie un tout petit peu une expression idiomatique pour que ça sonne mieux.
Ouais.
Mais cette modification crée par accident une signification tellement plus profonde que ça devient le centre du film.
C'est la comparaison parfaite. L'auteur s'empare de ce mot « corps » et l'utilise pour justifier carrément l'incarnation.
Rien que ça.
Une recontextualisation magistrale. Il dit « c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « il met ses paroles antiques dans la bouche de Jésus ».
Le corps préparé devient littéralement la chair et le sang de Jésus alors.
Exactement. Il oppose la première partie du psaume, où Dieu rejette les sacrifices, à la seconde partie, où l'offrande de ce corps accomplit la volonté divine.
Il prend les propres mots du psaume, offrande, volonté, corps, et bam, fin de l'ancienne alliance. C'est l'argument juridique suprême.
Ça met en lumière un principe clé de l'époque. Une révélation plus récente peut annuler une plus ancienne.
Le deuxième décret annule le premier, en gros.
Voilà, c'est la base textuelle qui justifie tout leur basculement religieux.
Bon, du coup, la preuve est établie. Le corps est offert une fois pour toutes, mais on pourra se demander, ok, on fait quoi après ? On recommence un cycle ?
Eh bien, pas du tout. L'auteur fait prendre un virage à 180 degrés au concept même de rituel.
Autour d'un détail hyper banal, la posture physique.
La posture, c'est tout sauf banal dans l'Antiquité, tu sais ?
J'imagine.
Ça pivote sur le psaume 110, un texte fondamental. Le premier verset dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ». L'ordre clé, c'est « Assieds-toi ».
Alors, juste avant de parler de la position assise, faut préciser un truc sur ce prêtre. L'auteur insiste sur le fait que Jésus est de l'ordre de Melchizédek. Pourquoi pas un lévite classique ?
Melchizédek, c'est une figure super énigmatique de la Genèse. Il apparaît, il bénit Abraham, il est roi et prêtre, puis, pouf, il disparaît.
Pas de généalogie, rien.
Exactement. Le psaume 110 jure que le Messie sera prêtre selon cet ordre-là. Ça permet à l'auteur d'esquiver le fait que Jésus n'était pas de la tribu de Lévi.
Ah, malin !
C'est un ordre supérieur, royal, qui n'est pas limité par la mort.
Ce qui nous ramène à la fameuse posture. Pour comprendre l'impact de ce « assieds-toi », faut visualiser un prêtre lévitique au quotidien.
Ouais, c'est important.
Le Deutéronome rappelle sans arrêt qu'ils se tiennent debout devant l'autel, tous les jours. Il y a zéro chaise dans le tabernacle.
Aucune.
Parce que le taf n'est jamais fini. Toujours un animal à abattre, du sang à verser. C'est l'employé dont la journée se termine littéralement jamais.
C'est exactement ça. La station debout, c'est l'incarnation de l'échec humain perpétuel. Et là, en contraste absolu, le nouveau prêtre s'assoit immédiatement.
Le message est incroyable.
C'est la preuve irréfutable du succès. On s'assoit en présence d'un souverain que si la tâche est définitivement accomplie.
C'est le mic drop antique. Boum, je m'assieds. Aucun rappel nécessaire, le rideau pompe.
C'est très visuel, oui.
Mais du coup, pour les gens ordinaires de l'époque, Sam. Parce que le texte dit de s'asseoir jusqu'à ce que les ennemis soient vaincus. Il y a une attente, là.
Ouais, c'est la fameuse tension eschatologique. Le déjà-là, mais pas encore. Le taf est fini, le prêtre est assis, mais l'histoire continue.
D'accord.
Et le docteur De Silva souligne que cette attente était vitale. Ça garantissait une récompense aux fidèles et la justice contre les oppresseurs.
Parce qu'il faut se représenter la galère pour ces premières communautés. Le temple de Jérusalem, il existait encore. C'était concret, ça sentait l'encens, il y avait le sang, la viande.
Un système visible et accepté socialement.
Et eux, à côté, ils étaient moqués, persécutés. Ils se réunissaient dans des maisons en disant « Notre prêtre, il est invisible et il est assis dans le ciel ».
La pression psychologique pour retourner au confort du temple devait être écrasante.
Ça devait être tellement dur de ne pas craquer.
D'où l'enjeu du texte. L'auteur doit captiver leur imagination pour qu'ils voient cette sphère invisible comme supérieure au marbre du temple.
Savoir que le chef a fini le taf et qu'il triomphe, ça leur donnait le courage de pas céder, quoi. Une stratégie de résilience.
C'est tout à fait ça.
Mais bon, si ce prêtre est assis dans les cieux, que tout est fini, ça rend toute la bureaucratie terrestre caduque.
Totalement.
Ça nous amène à la destruction des barrières. La nouvelle alliance.
Précisément. L'auteur convoque l'autorité suprême, le Saint-Esprit, en citant Jérémie 31. Deux promesses sont scellées.
Lesquelles ?
1. Dieu oublie les péchés. Amnistie totale, ce qui rend les sacrifices presque offensants. Et 2. La loi est internalisée. Elle est plus sur des tables de pierre, mais dans les cœurs.
La boussole morale devient interne.
Voilà.
Donc, plus besoin du système de gestion des fautes. Ça donne un accès direct, en mode VIP, à Dieu.
Le zonage de sainteté avec le parvis, le lieu saint, tout ça, ça vole en éclats.
Mais attends, je me pose une vraie question là. Si la loi est dans la tête, que le pardon est acté et que l'accès est direct, est-ce que l'auteur n'est pas en train de prêcher l'anarchie au fond ?
C'est-à-dire ?
Est-ce qu'il ne suggère pas de licencier purement et simplement tous les prêtres de la terre ?
C'est vrai qu'il y a une charge profondément subversive dans ce texte. On pourrait y voir un appel à l'anarchie.
C'est hyper anti-système.
Oui, mais l'analyse du docteur De Silva est plus nuancée. Ça n'abolit pas la communauté, mais ça détruit la légitimité d'une caste spirituelle.
Ah, je vois.
Le danger des institutions humaines, c'est de recréer spontanément ce modèle pyramidal, de reconstruire le voile.
De remettre des péages sur une route qui vient d'être déclarée gratuite, en fait.
C'est une excellente image. La distinction stricte entre le clergé sacré et les laïcs profanes, elle est foudroyée. Les leaders doivent pas être des médiateurs indispensables.
Ce sont juste des facilitateurs.
Des enseignants, oui. Désormais, tout le monde détient ce statut à parts égales.
C'est le concept du sacerdoce de tous les croyants.
C'est ça.
Mais concrètement, si on sacrifie plus de taureaux, on fait quoi au quotidien ?
La vie quotidienne devient sacrée. L'auteur dit d'offrir de nouveaux sacrifices. La louange, le témoignage, la solidarité, faire le bien.
C'est sans ces actions qui deviennent des actes sacerdotaux, quoi.
Voilà.
Bon, si on récapitule notre cheminement. On est parti d'une loi vue comme une ombre temporelle.
Ouais.
Ensuite, la critique prophétique avec cette offrande de jalousie qui prouve que la répétition, c'est le bug du système.
Puis, on a vu le glissement génial de la Septante. Le corps préparé qui justifie l'incarnation.
Pour finir sur l'image du prêtre qui s'assoit, le mic drop ultime qui abolit les intermédiaires et internalise la loi. C'est une réécriture intégrale du code source.
Le but, c'est que vraiment d'équiper les premiers auditeurs d'une audace inébranlable pour vivre cette liberté spirituelle sans regarder en arrière.
Et franchement, ça nous amène à une réflexion vachement plus large. Pour quiconque écoute ça aujourd'hui et s'intéresse aux structures de pouvoir.
Comment ça ?
Si l'objectif de ce vieux texte de 2000 ans, c'était de supprimer l'intermédiaire, d'internaliser la loi et de donner un accès direct et confiant, on peut se demander combien de nos institutions contemporaines fonctionnent encore sur le modèle du Lévitique.
Ah oui, la bureaucratisation de nos vies. C'est une question fondamentale.
Mais carrément, faut s'imaginer nos interactions avec l'administration, les écoles, les grandes entreprises. On exige de nous qu'on se tienne debout, guichet après guichet, pour des rituels administratifs inefficaces.
Juste pour justifier son statut.
Exactement. Et si le vrai défi moderne, c'était d'autoriser enfin les individus à agir avec l'autorité directe de quelqu'un qui a le droit de s'asseoir, parce que le boulot est déjà validé.
Ça, c'est une sacrée matière à réflexion pour clore cette analyse. Merci d'avoir retracé ce cheminement complexe avec moi.
C'était incroyable.
C'est toujours un privilège de voir comment une pensée du 1er siècle résonne encore autant aujourd'hui. Faut vraiment garder l'esprit critique face aux structures qui nous entourent.
Absolument. À la prochaine pour une nouvelle plongée au cœur des textes qui façonnent notre monde.